Poussez, s'il vous plaît. Êtes-vous heureux? Mais dis, qu'est-ce que ça peut vous faire?
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour vos chroniques terriennes. Chroniques terriennes, émission animée et réalisée par Eric Kolz, tous les lundis de 21h à 22h, en rediffusion sur les ondes de Radio Pays d'Aurillac, le samedi de 20h à 21h. Vous pouvez également retrouver vos chroniques terriennes sur le site de Radio Pays d'Aurillac et sur YouTube sur la chaîne Chroniques terriennes. Un sujet vous passionne, vous souhaitez vous exprimer à la radio, rien de plus simple. Contactez-moi au 07 69 25 96 69. Au sommaire de notre émission d'aujourd'hui, Christian Robert interviewé au téléphone pour son troisième opus, Histoire d'Auvergnat. Puis je suis retourné en classe pour le forum des métiers au lycée Émile Duclos. Enfin, j'ai bravé la pluie le 15 décembre dernier pour assister à l'inauguration du marché de Noël d'Aurillac. Bonne émission. Christian Robert, bonjour.
Bonjour, Eric, bonjour à tous.
Vous êtes un homme de radio avant tout, mais depuis 2014, vous écrivez, c'est bien ça?
Oui, Thomas d'Histoire d'Auvergnat a été publié fin 2014.
Alors là, nous en sommes au tome 3, si je ne m'abuse.
C'est cela, qui est sorti fin novembre.
Donc que l'on trouve à peu près partout sur Aurillac, je crois?
Oui, oui, oui. Notamment dans une librairie bien connue du centre-ville.
Oui, voilà.
Voilà. Et puis dans d'autres endroits, bien sûr. Donc, espace culturel, voilà.
Donc, si certains veulent l'acheter pour Noël, ça sera faisable.
Oui.
Dans ce dernier tome, Histoire d'Auvergnat, il y a comme d'habitude des personnages, mais vous avez aussi traité un vignoble en tant que personnage, c'est bien ça?
Alors, oui, le vignoble Auvergnat, et puis à travers le vignoble Auvergnat, la nouvelle génération de vignerons, à travers le parcours de Benoît Montel. Et le vignoble Auvergnat, je l'ai traité un peu comme un personnage parce que c'est un compagnon des Auvergnats depuis des siècles. Le vin Auvergnat a toujours accompagné les grandes personnalités ou celles qui ont marqué l'histoire. Exemple, un personnage très connu à Aurillac, Louis Bonnet, fondateur de l'Amicale des Auvergnats de Paris et surtout du Journal des Auvergnats de Paris. C'est lui qui avait fédéré tous les Auvergnats qui étaient à Paris avec ce journal et c'était un ardent défenseur du vin Auvergnat déjà à l'époque.
Alors, est-ce que pour les auditeurs, vous pourriez resituer un peu les endroits de production et ainsi que les cépages que l'on peut trouver?
Alors, le vignoble Auvergnat tourne surtout autour de Clermont-Ferrand, c'est-à-dire dans le Puy-de-Dôme, et puis dans l'Allier à Saint-Pourçain. Il y a également des vins de Paya dans le Cantal, du côté de Massiac, par exemple. Et puis, il y a un embryon de début de vignoble dans le Velay, autour du Puy. Le vin Auvergnat est au départ, et puis encore maintenant, est essentiellement constitué du cépage Gamay. Mais maintenant, on voit cette nouvelle génération, d'où l'intérêt de ces nouveaux vignerons qui ont tous suivi des études dans des domaines, notamment en Bourgogne, et des domaines réputés. Dans le temps, les Auvergnats, c'était les fils qui reprenaient l'affaire et ils apprenaient avec le père. Là, maintenant, on est passé à un autre niveau. Tous ont fait des études, tous travaillent sérieusement la vigne, orientés sur la qualité. Un ordre d'idées, il y a une quarantaine d'années, on produisait à peu près 70 hectos à l'hectare. Aujourd'hui, on est plutôt dans les 30 ou 40 hectos à l'hectare.
Oui, quand même.
C'est-à-dire l'effort qui est produit sur la qualité. Et alors, curieusement, alors il y a beaucoup de cépages qui sont arrivés, tels la Syrah, tels le Pinot Noir, le Chardonnay, etc. Je suis pas un grand connaisseur technique des cépages à implanter en Auvergne. Par contre, il reste encore une image, pour la plupart véhiculée par des Auvergnats, qui sont de fait des mauvais prescripteurs, pas tous, mais certains, où on traîne encore cette image de piquette de vin auvergnat d'il y a 40 ans, alors que la qualité d'aujourd'hui n'a plus rien à voir.
Ah, ça allait être ma dernière question d'ailleurs sur le, sur le vin. Oui, effectivement, les vins se sont améliorés.
Oui, et pour preuve, la plupart des vins auvergnats sont à la carte des restaurants étoilés en France, voire dans le monde. Et autre fait marquant, c'est que quand il y a des concours dits à l'aveugle, par exemple les vins de Benoît Montel sont souvent sur le podium. Quand ces mêmes concours se font avec des étiquettes mentionnant Côte d'Auvergne, vin d'Auvergne, ils sont jamais sur les podiums. Voilà, il y a encore un travail
de communication.
Une communication pour faire découvrir ou redécouvrir la qualité de ces vins auvergnats. Donc voilà pourquoi j'ai traité le vignoble auvergnat comme un personnage, comme un compagnon qui de tout temps a été accompagné de nos auvergnats qui ont marqué l'histoire.
Dans ce dernier livre, bien sûr, il n'y a pas que le vignoble auvergnat. Il y a des gens connus, bien sûr.
Oui.
Alors on peut peut-être en citer quelques-uns.
Il y a des gens connus qui ont marqué l'histoire et qui sont toujours connus aujourd'hui. Et puis d'autres qui étaient très connus à leur époque, qui sont tombés dans l'oubli. Ils ont toujours des noms de places, d'avenues, de rues à leur nom, mais on ne sait plus du tout qui étaient ces personnages-là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir une avenue à leur nom.
On le voit très bien à Aurillac.
Comment ?
On le voit très bien à Aurillac. Il y a des rues ou des places qui ont des noms qui ne parlent pas aux gens.
Voilà. Alors, il se trouve, par exemple, qu'il y a un personnage né à Aurillac qui s'appelle Paul Doumer, le premier président auvergnat de la République française. Lui est encore connu par certains. Pour d'autres, veulent plus rien dire. Il y a Fernand Forest, qui lui est originaire du Puy-de-Dôme et qui est à l'origine du moteur à explosion à une dimension telle qu'on pouvait l'installer dans une automobile. Donc il est à l'origine du moteur à explosion dans l'automobile. Et il sera également à l'origine des moteurs pour avions et des moteurs pour canots à moteur. Très connu à son époque, dans les salons universels, à Paris, il était connu, reconnu, récompensé, médaillé. Aujourd'hui, plus personne connaît Fernand Forest. Et pourtant, il a une vie incroyable. Voilà, vous avez également Octave et Louis Vaudable. Si je vous dis Octave et Louis Vaudable, ça va pas vous parler. Et si je mentionne le restaurant Maxim's à Paris, tout de suite, ça vous parle.
Tout à fait.
En fait, si le restaurant Maxim's a eu à une époque, une position de premier restaurant du monde, on le doit à ces Auvergnats.
Tout à fait.
Voilà, par exemple.
Il y a aussi des gens moins connus qui étaient malgré tout remarquables.
Oui.
Je pense entre autres à ces résistants.
Oui, oui. Alors le moteur de l'écriture de ce troisième tome, c'est la famille du docteur Louis Mallet à Saint-Flour. Ça m'embêtait que l'histoire complète de la naissance à la fin de leur vie de Louis Mallet et de sa famille ne soit pas reconstituée. J'ai donc passé à peu près 6 mois de travail et de recherche, de rencontres à Saint-Flour et aux alentours de Saint-Flour pour reconstituer son parcours, sa vie, l'histoire de Marguerite, son épouse, de ses enfants, Pierre, Étienne et Madeleine. Voilà, en plus, c'est un sujet extrêmement sensible, la résistance. Il faut faire attention à ce qu'on écrit. Il faut
tout à fait, oui.
Plusieurs fois. C'est ce que je me suis attaché à faire. Et voilà pourquoi le livre, le tome 3, commence par l'histoire du docteur Mallet et de sa famille, pour qui j'ai un énorme respect, mais c'est plus général par rapport à la résistance et aux résistants. J'ai eu la chance, quand j'étais jeune, que mes parents, d'une part, me fassent découvrir la littérature et d'autre part, des bouquins sur la résistance. Et donc, très jeune, j'ai pris conscience de à qui je devais de parler français et d'être libre aujourd'hui. J'essaye de pas oublier. J'essaye d'entretenir ce travail de mémoire. Et dans le Cantal, dans le Thomas, j'avais parlé de Bernard Cournil, par exemple.
Oui.
Dont le fils était installé comme garagiste à Aurillac. J'ai évoqué Émile Coulaudon, le colonel Gaspard au Montmoucher, Marinette Menu, une grande résistante. Voilà. Et dans la même veine, je voulais absolument rendre un hommage et entretenir la mémoire du docteur Mallet et de sa famille.
Comment procédez-vous ? C'est une recherche de documentation ? C'est des interviews ?
C'est un peu tout. Alors depuis le temps que je travaille sur les Auvergnats, puisqu'avant je faisais des émissions de radio toujours sur le même thème et le même sujet, et je faisais des recherches, et en faisant des recherches, on découvre d'autres personnages. Donc c'est sans fin. L'Auvergne est tellement riche en personnages qui ont marqué l'histoire que c'est un travail à l'infini. Et quand j'en trouve un et que je découvre qu'il a eu une vie exceptionnelle, incroyable, qui reflète bien le tempérament des Auvergnats, c'est-à-dire la ténacité, ne jamais rien lâcher, le courage, la persévérance, je creuse. Alors je creuse de différentes manières. Il y a les archives départementales ou municipales. Il y a la bibliothèque du patrimoine à Clermont qui regorge de dons, de fonds, par contre, donnés par des familles et des descendants. Il y a des recherches sur Internet, encore que faut se méfier, mais il y a des sites accessibles, style la Bibliothèque nationale de France.
Tout à fait.
Et puis, enfin, il y a les rencontres. Alors, si on reprend l'exemple du docteur Mallet, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer un petit-fils du docteur Mallet, un petit-neveu du docteur Mallet,
oui,
un petit-neveu de René Amarger, qui était imprimeur à Saint-Flour et qui était un grand résistant. Il deviendra plus tard par la suite un homme politique. Et René Amarger était l'ami le plus proche du docteur Mallet, hors résistance et pendant la résistance. Et après, je vais vérifier les sources dans les musées, auprès des archives municipales, pour être sûr que les dates, les faits soient réels, y compris les musées consacrés à la résistance. J'essaie de vérifier les sources 3 ou 4 fois. J'essaie d'être le plus précis possible, d'où le fait que ça prend du temps. Et il y a un auteur et professeur de théâtre que vous devez bien connaître à Aurillac, c'est Eugène Martre.
Tout à fait.
Qui m'a donné de précieux conseils il y a quelques années sur sa méthode de travail d'historien. Et j'avais retenu une phrase, une question. Il m'avait dit, quand vous avez vérifié 3 fois la source, votre source, qu'est-ce que vous faites? Je lui dis, je pense que je peux écrire. Il me dit non, vous vérifiez une 4e fois.
Donc toujours voilà vérifier.
Ouais, voilà la rigueur absolue appliquée par Eugène Martre et puis notre historienne qui à un moment était responsable des cadets de la résistance au Montboucher, c'est Françoise Fernandez.
Radio Pays d'Aurillac.
Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné 4 bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné 4 bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand soleil. Toi, toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel.
Qu'est-ce qui vous a conduit à Histoire d'Auvergne ? Alors d'abord vos émissions de radio, mais c'est un cursus, c'est quoi ? Vous aviez une formation d'historien ?
Alors c'est une bonne question, pas du tout. Je n'ai pas de formation littéraire et je n'ai pas de formation d'historien. Le seul moteur qui m'anime, c'est la passion de l'Auvergne et des Auvergnats. Moi-même, je suis Auvergnat. Alors, j'ai l'habitude de dire Auvergnat, je suis Auvergnat. C'est un terme souvent employé en Auvergne.
Originaire de Rion, si je ne m'abuse.
Alors, je suis né à Rion et mes ancêtres sont du côté du Cézallier, au-dessus de Besse-en-Chambès, dans des petits villages qui s'appellent Chananaï, Compas, Le Val-Belay, Saint-Donat, Bagnoles.
On ne peut pas faire plus Auvergnat.
Voilà. Et elle est remontée jusqu'en 1633. Donc j'ai des ancêtres qui remontent au moins jusqu'à 1633. Et alors, j'ai l'Auvergne dans les gènes, j'y peux rien. Je trouve l'Auvergne d'une beauté sans nom. On a tout, les paysages sont magnifiques. Les Auvergnats sont très chaleureux quand ils ouvrent la porte, c'est pour le restant de nos jours.
Et ils le font toujours de bon cœur.
Et voilà, c'est solide, enfin, c'est fiable.
C'est ancré dans la terre.
Et c'est ancré dans la terre. Il n'y a qu'à voir l'histoire des Auvergnats de Paris, que je vais traiter dans le tome 1 et le tome 2. C'est du solide, quoi. Quand ils étaient installés à Paris, dès qu'il y a quelqu'un de la famille qui arrivait, il était récupéré, on s'en occupait, on le plaçait. Vraie solidarité. Et ça, effectivement, ça vient de la terre. On connaît la valeur de cultiver un jardin en Auvergne. On sait que c'est un dur labeur. C'est pour ça que l'Auvergnat est tenace, qu'il lâche jamais rien. Voilà, donc... Et donc, j'étais interpellé dès mon adolescence par des plaques de noms de rues, et notamment à côté de chez mon grand-père à Rion, il y avait une plaque rue Marinette Menu, qui était une jeune femme résistante qui est morte à 30 ans, abattue par les SS, torturée avant. Elle connaissait tout de l'organisation de la résistance et elle n'a jamais parlé. Et Marinette Menu, il y avait donc cette plaque. Et dans les années 60, on n'avait pas les moyens qui existent aujourd'hui pour faire des recherches. Mmh. Donc moi, je cherchais à savoir ce qu'elle avait pu faire pour avoir cette rue à son nom.
Une courageuse comme la terre d'Auvergne, finalement.
Ouais. Donc, j'ai trouvé beaucoup plus tard. Et puis, quand j'ai eu la chance de pouvoir partir à la retraite très jeune, c'était un choix de ma part, un ami m'a dit, écoute, tu nous saoules tellement avec ton Auvergne et tes Auvergnats, pourquoi tu ferais pas une émission de radio qui parlerait des Auvergnats? Cet ami faisait lui-même déjà de la radio. Donc j'ai fait une maquette qui a été acceptée dans une radio. Ensuite, ça s'est démultiplié dans plusieurs radios associatives. Et alors, j'ai été pris dans la marmite, quoi, et depuis, j'arrête pas. Alors, au départ avec les émissions de radio, et puis les émissions de radio ont débouché sur l'écrit. Entre les deux, j'ai fait des chroniques sur Radio France Bleu, Pays d'Auvergne, toujours sur le même sujet. Et voilà, et donc ma passion se démultiplie, et en plus j'ai la chance de pouvoir partager cette passion avec les auditeurs et avec les lecteurs. Je vis une période merveilleuse, voilà, parce que j'apporte ma petite pierre à la mémoire patrimoniale humaine auvergnate.
Est-ce qu'il y aura un tome 4? Je sais que c'est un peu prématuré, mais bon.
Ouais, c'est une bonne question. Je sais pas trop. Là, je savoure la sortie du tome 3 qui m'a pris 3 ans de travail.
Quand même.
Oui. Je sais pas encore. Il y a l'âge avançant aussi. Enfin bon, faut réfléchir à plein de choses. Là, ça fait déjà une trilogie, quoi. Tome 1, tome 2, tome 3, une triade. Et puis, c'est pas l'envie qui manque. On verra plus tard. Je veux pas m'engager. Voilà. Enfin, les histoires d'Auvergnat vont continuer, soit sous forme radiophonique, soit sous forme écrite.
Donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, on pourra retrouver les histoires des Auvergnats et les histoires d'Auvergnat.
Voilà, parce que ce sont des histoires intemporelles. Les 3 tomes sont réédités régulièrement, donc il n'en manque pas.
Ça allait être ma question. Est-ce qu'on peut acheter les 3 tomes encore ?
Oui. Le tome 1 qui connaît un grand succès. Alors peut-être est-ce dû au Cantal, parce qu'il y a énormément de Cantaliens dans le tome 1, et je l'avais fait volontairement, parce que même si je suis du Puy-de-Dôme, autrement dit de la basse Auvergne, et pas de la haute Auvergne, où se situe le Cantal, je suis très très sensible à la terre cantalienne. J'adore me balader dans le Cantal, j'adore venir travailler dans le Cantal, faire des recherches, voilà. Donc c'est une passion, j'ai pas d'autre mot, c'est une passion.
Les passions, il faut les vivre de toute façon.
Et voilà, faut les vivre. Et puis en plus, la chance que j'ai, c'est de les partager. Donc, c'est de la partager. Donc, je remercierai jamais assez les auditeurs ou lecteurs d'Histoire d'Auvergne. Après, quand vous découvrez à Aurillac un aérodrome qui s'appelle Marie-Marvin, et que vous découvrez la vie de Marie-Marvin, que je raconte dans le Thomas, le parcours de cette femme est proprement incroyable et pourtant réel. Voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il y a des cabaretaires comme Martin Cayla ou Antoine Bouscatel qui ont eu des vies quasiment irréelles. Vous avez le pape Sylvestre II, né à Aurillac, sur les bords de la Jordanne. Quand on voit d'où il part et ce qu'il arrive à faire en étant le premier pape français, en l'an 999, même s'il y a une part de légende dans l'histoire, quand même, il sait ni lire ni écrire à 10 ans, à l'âge de 10 ans, et il devient pape. Ça me laisse sans voix.
Il y a
admiratif de ces personnages.
Il y a beaucoup de légendes d'Auvergnat, finalement.
Sur Sylvestre II, ce qui est particulier, il y a des légendes sur le début de son enfance. Enfin, il semblerait qu'il y ait des légendes sur le début de son enfance. Par contre, après, il avait un écolâtre qui faisait des études, donc, et qui a transcrit sur des cahiers, sur des carnets, tout ce qu'il vivait avec Sylvestre II.
C'est pour ça que c'est bien documenté, d'ailleurs.
Et voilà, et ces documents, on peut les retrouver. Alors, ils sont écrits en latin, mais ils sont traduits en français, et je crois qu'il y avait 3 volumes, il me semble, et ces volumes, on les retrouve à la Bibliothèque du patrimoine à Clermont-Ferrand. Donc, c'est une mine, cette Bibliothèque du patrimoine. Et là, il y a des preuves, c'est avéré.
Oui.
Il y a une partie du parcours de ce pape qui est absolument avérée.
Après, vous n'avez jamais été tenté d'écrire, par exemple, sur le viaduc de Garabit ou sur des réalisations ou des monuments ou sur quelque chose qui n'aurait finalement, qui serait un peu différent, quoi.
Alors non, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'humain. C'est-à-dire que quand je parle du docteur Vallée à Saint-Flour, par exemple, ou de Paul Doumer, je m'attache à raconter l'homme, d'où il part, ce qu'il fait. C'est pas des faits de gloire, c'est pas une biographie classique, c'est l'humain, c'est ses réactions, c'est l'homme. L'humain me parle. Quant au
la rencontre finalement.
Comment?
La rencontre finalement.
Eh ben, c'est la rencontre dans les recherches, à travers les recherches où après je suis fasciné par les parcours. On voit certains parcours très émus, genre la famille Mallet. C'est l'humain qui me parle. Quant aux réalisations, genre le viaduc de Garabit et d'autres, je laisse ce soin aux spécialistes, notamment Patricia Rochès, la maire de Corin, à côté de Saint-Flour.
Tout à fait, oui.
Qui est présidente de l'association du viaduc de Garabit pour la défense. Elle défend le patrimoine du style viaduc de Garabit, mais
oui,
pas
tout
que.
À fait, oui. D'ailleurs, j'espère bientôt l'avoir dans les chroniques terriennes, car il y a beaucoup à dire et à faire sur le viaduc.
Voilà. Et alors, elle a beaucoup d'ouvrages sous forme de livres illustrés, accessibles aux enfants à partir de l'âge de 7 ans. Ce sont les éditions La Vache qui lit. Elle donne accès, au lieu de lire une énième bande dessinée qui raconte l'histoire d'un chat ou je sais pas, d'un oiseau ou d'un perroquet, pourquoi pas s'enrichir intellectuellement pour ces jeunes à partir de 7 ans sur le patrimoine. Ces histoires sont joliment racontées, joliment dessinées. Je trouve ça superbe. Et pour le coup, elle est cantalienne en plus. Voilà, très érudit. Après, elle se bat aussi pour le développement du train ferroviaire qui traverse le Cantal. Elle se bat pour des causes, des belles causes.
Tout à fait.
Liées au développement du patrimoine. Voilà, donc c'est une excellente idée d'inviter Patricia Rochès.
Votre œuvre, est-ce que vous la faites découvrir aux jeunes? Est-ce que vous faites des interventions dans des lycées, ce genre de choses?
Alors, ça commence à venir. Et justement, j'étais en dédicace à Saint-Flour la semaine dernière et j'étais à côté de Patricia Rochès et Daniel Bouges, qui sont deux défenseurs du patrimoine. Et Patricia me disait, tu sais qu'il y a un collège Louis Mallet à Saint-Flour? Alors, je dis oui. Elle me dit, figure-toi que j'ai rendu visite à des élèves et je leur ai posé la question, leur ai demandé s'ils savaient qui était Louis Mallet, le nom que porte le collège. Et ben, tous les enfants qu'elle a interviewés, aucun ne savait qui était Louis Mallet. Donc, l'intérêt d'aller faire des interventions dans ces écoles, au minimum, c'est pour faire découvrir qui était la personne qui a donné son nom à cette école, par exemple. Donc, ça commence à venir.
C'est une très bonne chose de découvrir les Auvergnats, en tout cas.
C'est cela, faire découvrir des Auvergnats qui ont marqué l'histoire à des jeunes. Quel plus beau moment à vivre.
Oui, et puis ça leur permet de rester attachés à leur région, à l'Auvergne et à l'endroit où ils vivent finalement.
Voilà, c'est un travail de mémoire, c'est un entretien de la mémoire du territoire, du terroir, du pays dans lequel, moi j'ai l'habitude de dire que l'Auvergne c'est un pays, pas une région. Voilà, cette passion me fait vivre des moments de bonheur, magique.
Christian Robert, une dernière question. Quelle chanson pourrions-nous passer pour illustrer l'Auvergne ?
Alors, il y en a une qui est très belle, qui s'appelle « Mon Auvergne » et qui est chantée par un cantalou qui s'appelle Bernard Odoul.
Nous la passerons juste après cette interview.
Oui.
Avec plaisir, en tout cas.
C'est gentil, merci.
Christian Robert, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission des Chroniques Terriennes, d'avoir été là sur Radio Pays d'Aurillac, et je sais qu'on vous y retrouvera prochainement.
Oui, je vous remercie beaucoup pour votre invitation, ça a été un grand bonheur, un grand plaisir.
Merci.
Merci, au revoir.
Je suis né dans cette France, au pied de ces volcans, mon enfance, bercé par les couleurs d'insouciance, mon Auvergne a tant vécu, mon Auvergne a tant vécu. Par ses chemins, par ses pierres, habillé de montagnes, de cratères, où les cœurs sont remplis de lumière, mon Auvergne a tout vécu, mon Auvergne a tout vécu. Je suis né sur cette terre, ce pays dont je reste si fier, la patrie de mon père, de ma mère, je la garde fond de moi. Nous venons de cette terre, cette Auvergne dont nous sommes si fiers, le berceau de nos pères, de nos mères, je vous garde au fond. Sans béton, sans les armes et sans cris, mon Auvergne a tout donné, mon Auvergne a tout donné. Même si je vis au soleil, tant d'avant, tant présent, s'entremêle, aux souvenirs jamais infidèles, mon Auvergne. La patrie de mon père, de ma mère, je la garde au fond de moi. Nous venons de cette terre, cette Auvergne dont nous sommes si fiers, le berceau de nos pères, de nos mères, je vous garde au fond de moi. Je vous garde au fond.
Radio Pays d'Aurillac.
C'est au lycée Émile Duclos que nous nous rendons maintenant ce vendredi 16. Tout l'après-midi se tenait le Forum des métiers, une initiative destinée à faire découvrir à ces jeunes lycéens quelques métiers auxquels ils n'auraient pas nécessairement pensé. Je n'ai pas interrogé tous les intervenants, cela aurait été beaucoup trop long. Je vous invite à écouter le proviseur, quelques intervenants et des élèves qui vous expliqueront tout.
Bonjour, David Balieu, proviseur du lycée Émile Duclos d'Aurillac.
Aujourd'hui, nous sommes sur une journée un peu particulière puisque c'est le Forum des métiers. Pourriez-vous nous dire qui est à l'initiative de ça et pourquoi ça se passe aujourd'hui ?
Alors, il y a une tradition de Forum des métiers dans l'établissement depuis plusieurs années. Jusqu'à présent, c'était particulièrement les anciens élèves du lycée qui étaient invités à venir présenter leurs études, leur parcours d'études actuel. Nous avons souhaité faire évoluer le dispositif pour l'ouvrir davantage à des professionnels, permettant donc à des personnes en activité actuellement de venir présenter à la fois leur parcours d'études et leur profession actuelle à nos 700 élèves lycéens.
J'ai eu l'occasion d'interroger quelques élèves. Ils ont été plutôt très réceptifs à cette journée. Est-ce que vous aviez l'impression qu'ils étaient impatients que cette journée arrive ?
En tout cas, ça participe d'une réflexion importante pour eux, puisqu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le parcours orientation, dit parcours avenir en éducation nationale, est au cœur de nos préoccupations. Il ne s'agit pas de les préparer uniquement au baccalauréat, mais bien à la suite, aux ouvertures que le baccalauréat va leur amener. Et de ce point de vue-là, nous sommes persuadés qu'à côté des forums de l'enseignement supérieur, où ils vont découvrir les différentes écoles, formations qui vont leur être proposées, il est important qu'ils puissent également se projeter vers, si ce n'est un métier, ce qui est le cas parfois pour certains, au moins des champs professionnels qui s'ouvrent à la suite de ces études. Ou que la réflexion soit, si un champ professionnel m'intéresse, alors, dans un deuxième temps, quelles sont les voies de formation qui me sont ouvertes pour y accéder.
Donc c'est aussi pour eux l'opportunité d'éventuellement découvrir peut-être des choses auxquelles ils n'auraient pas pensé.
Ça c'est évident, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment à travers le principe des tables rondes, pour beaucoup de nos élèves, certaines professions sont parlantes, certains intitulés sont transparents. Pour d'autres, c'est beaucoup moins clair, il y a des professions qui leur sont totalement inconnues ou dont l'intitulé leur est complètement inconnu. Donc à travers ces tables rondes ou à travers un champ professionnel auquel ils se sont inscrits, eh bien, ils vont pouvoir découvrir tout un univers dont une bonne partie restait dans l'ombre. Eh bien, en effet, ils vont pouvoir approfondir et se projeter bien davantage.
Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire qu'il y ait d'autres opérations de ce type, de rapprochement aussi, peut-être des entreprises vers des jeunes scolarisés en seconde, première et terminale ?
Alors, évidemment, les lycées professionnels sont beaucoup plus ancrés sur le monde professionnel que nous ne le sommes, nous, qui n'offrons que des formations générales. Il est important, en effet, et nous renouvellerons chaque année, ce type de dispositif de demi-journée permettant donc à nos lycéens eh bien, de rencontrer des professionnels en activité et de se faire une idée plus pertinente de la réalité du monde professionnel qui va bientôt évidemment être le leur une fois qu'ils auront terminé leurs études.
Il n'y a pas une entreprise du Cantal qui ne recherche pas à recruter. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne nouvelle pour nos jeunes ?
Ah ben évidemment, nous sommes notre métier dans l'enseignement, c'est de les préparer à une vie évidemment de citoyens, mais aussi une vie professionnelle. Toutes les compétences, les connaissances que nous tentons de leur faire acquérir n'ont d'autre objectif que de leur permettre une insertion réussie à la fois dans notre société et donc évidemment dans la vie économique de notre pays. Donc qu'il y ait de l'emploi pour nos jeunes et que nous puissions nous les former au mieux pour répondre à cette demande de la société, c'est le cœur même de notre métier.
Bonjour, je m'appelle Yvan Larocque et je suis élève en terminale au lycée Émile Duclos.
Aujourd'hui, tu as participé à l'organisation de cette journée qui est un peu particulière, le Forum des métiers. C'était quelque chose que tu as fait volontairement ?
Oui, tout à fait, avec deux autres copines à moi. On s'est engagé parce qu'en plus, on n'avait pas de cours avant, donc on a fait ça avec plaisir, oui.
C'est la première fois que tu le fais ?
Mais c'est surtout la première fois qu'on nous propose de le faire. Donc oui, effectivement, c'est la première fois que je le fais. Et j'avais déjà participé à l'accueil des portes ouvertes l'année dernière, donc j'avais quand même eu une première approche de l'accueil, mais c'est vrai que c'est la première fois, oui.
Ça t'a plu ?
Oui, oui. Après, c'était juste sur une demi-heure, donc c'était pas très long. Mais c'était sympa de rencontrer des nouvelles personnes et de les conduire jusqu'aux salles, oui.
Bonjour, moi je m'appelle Christelle Langagne, j'ai 21 ans. Et là, je suis en première année en études d'ingénieur agronome à Bordeaux. Et donc du coup, j'ai été diplômée à Duclos en 2019.
Donc ancienne élève.
Voilà. tout à fait.
Ça fait quoi de revenir dans son ancien lycée ?
Ah bah, ça fait bizarre. On a l'impression qu'on y était hier, mais au final, quand on y repense, c'était il y a quand même 3 ans pour moi. Donc, c'est plein de bons souvenirs et ça nous permet de voir un peu tout ce qu'on a accompli depuis notre sortie du bac. Donc,
On se sent plus à l'aise, je suppose ?
Oui, et un peu d'appréhension quand même, parce qu'on se dit il faut bien... bien vendre l'après-bac après Duclos et ouais, c'est vraiment gratifiant.
Pour vous, l'après-bac, c'est bien ?
Oui, ça a été plein de doutes après le bac, parce que je ne savais pas trop quoi faire comme la majorité des élèves. Mais du coup, j'ai pu trouver ma voie, j'ai fait une licence. Au début, je ne trouvais pas trop de sens, mais maintenant, j'ai pu me réorienter. Je suis en école d'ingénieur et je me rends compte que tout ce que j'ai fait avant, ça me...
C'est utile ?
Oui, voilà, ça me sert maintenant. Donc,
Alors oui, ingénieur, c'est beaucoup plus concret. C'est vrai que la licence, c'est plus abstrait.
Oui, voilà, moi, c'était vraiment quand j'allais voir les concerts et d'orientation, je disais, moi, je veux du concret. Mais c'est très subjectif, la notion de concret. Donc, on peut trouver les sciences hyper concrets, alors que moi, traiter des cellules ou des molécules, ça me paraît très abstrait, au contraire. Mais du coup, maintenant, ouais, je vois beaucoup de concret dans ma formation, donc c'est cool.
Alors maintenant, je pense que vous avez le recul suffisant pour vous dire que ce que vous avez appris, finalement, était utile.
Oui, voilà, c'est ça. Il faut toujours se garder dans un coin de notre tête que tout ce qu'on apprend, c'est utile et ça nous servira forcément plus tard, mais sur le moment, c'est un peu compliqué de se le dire quand on a des pertes de motivation, c'est compliqué.
C'est peut-être aussi les doutes de la jeunesse, quelle que soit l'époque.
Oui, voilà, et on a peur d'être au mauvais endroit, de ne pas faire comme les copains, de se dire c'est pas assez bien, ou au contraire, c'est trop bien et je suis pas à la hauteur, c'est vraiment plein de questions, et puis on se cherche aussi à ce moment-là, donc c'est compliqué de savoir où est notre place, quoi.
Bonjour, je m'appelle François Théré, je suis... diplômé, j'ai eu mon bac au lycée Émile Duclos en 2010, bac scientifique à l'époque, puis ensuite j'ai entrepris un cursus d'ingénieur, donc une classe préparatoire à Toulouse, puis l'INSERM Atmeca à Bordeaux, donc j'ai été diplômé en 2015 et donc j'exerce comme ingénieur depuis cette année-là.
Dans le Cantal ?
Non, j'ai jamais malheureusement travaillé dans le Cantal, j'ai commencé à Bordeaux, j'ai ensuite pris un contrat à durée déterminée aux États-Unis pour 1 an et demi. Et ensuite, suite à ça, je me suis installé au Québec, autour de Montréal, où j'exerce depuis 4 ans maintenant, toujours en tant qu'ingénieur.
En tant qu'ancien élève, présent aujourd'hui au Forum des métiers, on vous a contacté, c'était spontané ?
Exact, oui. J'ai participé déjà 2 années précédentes à ce même événement. Initialement, c'était que j'avais retrouvé des anciens professeurs qui était en voyage linguistique sur la région de Boston lorsque j'y travaillais. Et puis, ça me fait, c'est ça, donc troisième fois que j'y participe, ça me fait bien plaisir d'échanger, d'essayer d'être utile là, pour les jeunes élèves. Là, je me remets à leur place à l'époque. C'était pas évident pour moi de savoir vers quoi m'orienter après le bac. Fait que je vais
donc, essayer de leur donner là, un peu la fibre.
Exact, c'est ça. Et puis bon, ne pas leur montrer ce que peut-être mon métier là, puis leur donner un peu un panorama, puis
leur parler des voyages, je suppose.
Les voyages, les expériences, c'est ça, exact. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça, les choix, tout ça, exactement.
Je m'appelle Sandrine Mire et je suis infirmière anesthésiste à l'hôpital de Figeac depuis plus de 20 ans.
Donc pas ancienne élève d'ici.
Ah, pas du tout, non.
Nous sommes au Forum des métiers au lycée Émile Duclos. Comment avez-vous été contacté ?
Par l'intermédiaire du directeur, M. Ballieu, puisque mon fils est scolarisé ici.
Oui, donc il y a quand même un lien finalement.
Oui, si, mais je ne suis pas là par hasard.
Votre présence ici aujourd'hui, c'est quelque chose que vous souhaitiez faire ?
Ça a été une opportunité de venir parler de mon métier pour essayer de susciter quelques vocations aussi, lever le voile sur certaines images qu'ont les élèves du métier d'infirmière anesthésiste. Voilà, essayer de leur montrer le côté positif de notre métier.
Surtout que c'est un métier où il faut du personnel.
Oui, surtout en ce moment.
Bonjour, je m'appelle Fabien Born, je suis infirmier anesthésiste à l'hôpital d'Aurillac.
Vous avez un lien particulier avec le lycée Émile Duclos ?
Non, aucun. Je n'ai pas fait mes études à Émile Duclos. J'ai rejoint le Forum des métiers il y a déjà de nombreuses années par connaissance de l'ancien proviseur.
Pour vous, c'est important de faire découvrir aux jeunes votre métier ?
Oui, faire découvrir notre métier et essayer de les encourager en fait. Hein. Ils sont à une époque où... par laquelle on est passé, on ne savait pas trop quoi faire. C'est souvent le cas. Et on leur ouvre une porte. Ils l'ouvriront eux-mêmes après ou pas, mais on leur ouvre une porte pour leur avenir. Et on essaye de les encourager aussi à prendre confiance en eux et à aller jusqu'au bout de leurs choix, de leurs envies.
Je parlais avec votre collègue de la nécessité d'infirmiers. C'est une réalité.
Oui, mais moi je suis pas là pour faire du lobbying non plus. C'est-à-dire que s'ils ont envie et s'ils sentent qu'ils sont faits pour ça, je sens de mon devoir de les encourager, mais je vais pas non plus leur mentir sur le métier pour à tout prix recruter.
De toute façon, c'est un métier difficile.
Oui, voilà, il faut pas cacher non plus les contraintes de nos métiers. Et comme je dis, on ouvre une porte et derrière la porte, il y a plein de lumière et puis il y a quelques zones d'ombre aussi. Et c'est bien qu'ils puissent avoir cette conscience de ça.
Vous les sentez aptes à écouter la vérité sur votre métier ?
Oui, je pense que c'est une génération qui est pleine de maturité, enfin, qu'il y en a au moins autant que je pouvais en avoir il y a 20 ans quand j'étais à leur place. Je pense qu'il faut leur faire confiance.
Je le crois aussi.
Je m'appelle Anna Germain, je suis au lycée Émile Duclos en terminale.
Tu fais du journalisme ?
Oui, je fais partie du club journal au lycée. Donc ça s'était déjà fait il y a plusieurs années et on l'a repris cette année. Donc c'est vraiment un journal assez collaboratif puisqu'on est quand même une dizaine de personnes à y participer. Et on essaie de publier régulièrement des interviews.
Quel rythme les publications ?
Alors on a fait la première sortie aujourd'hui. Du premier numéro. Merci, numéro. Mais après, on essaiera de le faire assez régulièrement. On ne se met pas de barrière par peur de stress ou autre chose. En tout cas, on essaiera du moins de le faire assez régulièrement. On va dire toutes les 2-3 semaines s'il fallait donner une...
Oui, c'est quand même un bon rythme.
Oui.
Alors, photo et écrit ?
Alors, il y a un peu de tout. Il y a de l'écrit, évidemment, mais aussi des interviews orales, comme par exemple ce qu'on a fait ce matin en rapport avec la journée qui s'est passée. Qui se passe aujourd'hui, effectivement. Et donc voilà, on va à la rencontre des gens, les interviews, on monte ça et après on le publie sur l'ENT pour que d'autres personnes puissent le voir. On fait aussi avec les profs. On avait interviewé un premier prof il y a 2-3 semaines et on va le faire pareil assez régulièrement pour laisser la place aux gens qui ont du mal à s'exprimer ou qui ne peuvent pas s'exprimer. On va essayer de les aider à parler de tout ça.
Alors interviewer un prof, c'est sympa ça. Pour une fois, c'est l'élève qui pose les questions.
Oui. Ah, ça change, oui, mais on a un peu été humiliés au début. C'est le premier prof qu'on a interviewé pour l'instant, c'était monsieur. C'est un prof d'histoire-géographie. Et oui, c'est vrai que c'est un peu intimidant quand même, mais aussi très intéressant parce qu'on comprend un petit peu leur manière de fonctionner et aussi c'est quand même laissé libre par.
C'est enrichissant en tout cas.
C'est enrichissant énormément, oui.
Je te souhaite tout le succès possible dans vos publications. Et puis j'aimerais bien que tu nous tiennes au courant sur Radio Pays d'Aurillac.
D'accord, pas de souci. Merci beaucoup.
Bonjour, donc Nicolas Salah, je suis formateur à l'INSPE, donc sur le campus Simone Veil à Aurillac, campus universitaire. Donc l'INSPE, c'est l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation. Et donc mon métier consiste en fait à former les étudiants de Master 1 et Master 2 qui souhaitent devenir professeurs des écoles.
C'est l'ex-IUFM, c'est ça ?
Exactement, l'ex-IUFM, l'ex-ESPE qui est ex-IUFM et qui est ex-école normale.
Vous êtes un ancien élève d'ici ?
Non, pas du tout, moi je viens de région parisienne. Mais voilà. Et je suis par contre, je viens du premier degré, c'est-à-dire que j'étais professeur des écoles pendant longtemps avant de devenir formateur à l'université.
Professeur ici sur la région ou uniquement en région parisienne ?
Ah non, j'étais aussi sur la région. Oui. J'étais à Vézac, à Ytrac, à Aurillac. Voilà.
Pourquoi votre présence ici aujourd'hui au Forum des métiers ?
Eh bien pour renseigner ceux qui seraient intéressés éventuellement pour devenir professeur des écoles dans le futur, pour leur indiquer en quoi consiste déjà le métier de professeur des écoles et pas que la partie enseignement, tout ce qu'il y a à faire à la maison en plus, et puis les démarches de formation pour arriver jusqu'à ce métier-là.
Radio Pays d'Aurillac.
Des classeurs de lycée, y a tes rêves et tes secrets, tous ces mots que tu ne dis jamais,
des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne. Dans tes classeurs de lycée, y a du sang et y a des pleurs, des premières blessures de ton cœur, les premières blessures, les premières déchirures qui font des bleus à ton âme, qui font des bleus, petite âme. Que tu mentes autour des diabolos mentes quand tu racontes les nuits du dernier été et les tout premiers amants que tu n'as eu qu'en rêvant. Dans tes classeurs de lycée, y a tes rêves et tes secrets, des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne, que tu caches, petite Anne, que tu caches et qu'on condamne, que tu caches, petite Anne.
Oh 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 oh!
Qui dit décembre dit Noël. C'est donc tout naturellement que le 15 dernier, je me suis rendu à l'inauguration du marché de Noël d'Aurillac.
Oh, 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 oh.
Bonjour, je suis Nicole Soulin, adjointe à l'attractivité commerciale, au cœur de ville et au stationnement.
Alors votre présence est naturelle ici aujourd'hui au marché Noël, puisque c'est l'inauguration. Pourriez-vous nous dire si cette inauguration avec les élus est quelque chose de régulier, presque une coutume ?
Oui, c'est une coutume. Chaque année, le 15 à midi, on inaugure le marché de Noël. Donc aujourd'hui, ben, c'est inauguration pluvieuse, inauguration heureuse.
On va dire ça.
Voilà, on va dire ça. Hein, donc c'est toujours un moment sympa et agréable de faire le tour des stands et de voir les commerçants qui font le déplacement, qui sont heureux de venir à Aurillac pour présenter leur création artisanale, qui sont souvent locales, ça c'est intéressant, avec des matériaux locaux. On a vu une dame, par exemple, qui élève des chèvres à Allanche et qui fait des objets produits à base des laines de ses chèvres. On a vu des gens d'Ulot qui font des cavistes, de Marcolès aussi, qui ont vin fabriqué là-bas. On a une dame qui fait des étoiles qui vient de Montignac, c'est pas très loin, et qui fait des étoiles lumineuses qui sont super jolies. D'ailleurs, certains la connaissent sûrement parce qu'elle était au festival de Tête de Rue dans les stands aussi. Donc je peux pas tous les citer, des
oui,
bijoux,
bien sûr.
Des choses à déguster. Il y a à voir, à boire, à manger.
C'est parfait ça pour Noël. Alors, il y a des anciens et il y a des nouveaux.
Ah oui, il y a des fidèles, il y en a, ils sont là depuis 25 ans. Hein.
Oui.
Ouais, c'est génial, donc c'est toute une génération et on voit des fois justement la grand-mère, le fils et la suite. Quoi. Donc c'est un rendez-vous magique, annuel. Donc là, cette année, il est un peu particulier, il est complètement ouvert. Hein,
oui.
Parce que bon, il faut faire quand même attention au Covid, hein, donc dès qu'on est à moins d'un mètre, on remet les masques. Hein. Je tiens à le repréciser quand même. Mais bon, on est un peu moins sévère que les autres années. Donc du coup, il est plus élargi, on va dire, autour du square. Et donc l'intérêt, c'est de faire le tour du marché de Noël, de trouver ces petits cadeaux de Noël artisanaux et de terminer par une balade à l'intérieur du square avec la parenthèse enchantée lumineuse qui est magique à partir de 17h.
Oui, j'avais déjà fait un reportage sur le square.
Ouais, donc c'est et ensuite l'idée c'est qu'une fois que vous avez fait tout ça, vous continuez, vous allez vers la place de l'hôtel de ville avec les enfants où il y a les manèges, la boîte aux lettres du Père Noël, les balades en calèche et tous les commerçants qui ont fait des efforts importants sur leur vitrine cette année.
Et il y a des jeux d'ailleurs avec les commerçants.
Absolument. Il y a des jeux avec les commerçants. Il y a le jeu de... vous allez à l'office de tourisme recueillir un cahier, et comme un peu les cahiers Panini dans le temps quand on était gamin, et vous repérez le casse-noisette dans les vitrines avec vos enfants de moins de 10 ans. Et quand vous avez rempli le cahier avec les vignettes repérées dans les vitrines, vous avez gagné un cadeau pour votre gamin. La roue de Noël, où on gagne aussi des cadeaux tous les jours, sans parler des activités pour les enfants au marché de Noël tous les après-midi. Et n'oubliez pas, lundi soir, le spectacle sur la place d'armes pour les enfants aussi.
Le spectacle, oui, le spectacle. Oui.
Voilà, donc je crois que c'est à 17h lundi soir. On l'a décalé cette année pour que ce ne soit pas mélangé avec la sortie où les gens sont un petit peu débordés le vendredi soir. D'habitude, c'était le vendredi soir de la sortie. Cette année, c'est lundi soir.
Ça permettra à tout le monde de venir le voir.
Voilà, voilà, hein, de ne pas être dans la folie de la sortie et de se poser le week-end et revenir lundi soir faire un tour en ville.
C'est un menu très complet pour Noël à Aurillac.
Vous venez en famille à Aurillac pendant les fêtes, vous pouvez occuper vos enfants, voir de belles choses, trouver vos cadeaux de Noël artisanaux ou dans les boutiques. Il y a de quoi faire, et terminer par la magie dans le square. Voilà, un beau programme cette année et qui est pour toutes les bourses, parce qu'il y a beaucoup d'activités tous les après-midi, on tient à dire qu'ils sont gratuites.
Il faut le répéter.
Ouais, il faut le répéter. Donc c'est pour toutes les bourses, pour tous les publics, pour toutes les générations.
Eh bien, je vous remercie de nous avoir présenté tout ce beau programme et à très bientôt sur l'antenne de Radio Pays d'Aurillac.
Ça marche. Merci à tous et joyeux Noël à tous.
Ho, ho, ho.
Je m'appelle Cécilia et je viens de l'île de Léron.
Et hey.
Bonjour, moi c'est Benoît et je viens aussi de l'île de Léron.
C'est loin du Cantal, ça.
C'est assez loin, oui. Mais bon, ça change.
Votre premier marché de Noël ici?
Oui, premier.
Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que vous présentez tous les deux?
Oui, alors on fait chacun une chose différente. Moi, je fais de la peinture sur verre dans le style vitrail, et afin de décorer vos fenêtres, en fait, voilà. C'est des peintures qui se collent directement sur les fenêtres pour que la lumière passe à travers et qu'on profite comme si on avait un vitrail à la maison.
C'est sur quel support, alors?
Mais c'est du verre, 2 mm.
Et toi?
Et moi, je propose des orgonites. Des orgonites.
Alors, explique.
Les orgonites, c'est souvent en forme de pyramide et c'est fait avec de la résine, du métal et du quartz. Et on met aussi des pierres et ça a des vertus intéressantes.
Alors quel type de vertus par exemple?
Par exemple, ça peut aider pour le sommeil, ça rend moins nocif les ondes électromagnétiques comme le Wi-Fi, le téléphone portable. Ça peut aider à faire pousser dans le potager, ça aide aussi à conserver les fruits et légumes, ça dynamise l'eau, ça ionise l'air.
Il y a plein de vertus, oui, finalement.
Voilà, il y a plein de vertus, c'est ça.
Alors, tous les deux, ça fait longtemps que vous faites ça?
Non, moi, c'est mon premier marché, tout premier.
Tout premier?
Ouais.
Et toi?
Moi, c'est mon premier marché, mais ça fait 3 ans que je travaille dessus, où je fais des conférences, des ateliers. Je fais des conférences pour expliquer un peu comment ça fonctionne techniquement et énergétiquement.
Comment vous avez trouvé l'accueil à Aurillac?
Très bon. Oui, il y a une bonne ambiance sur le marché en plus, donc c'est chouette.
Très bonne ambiance. Très bien accueilli.
Ho, ho, ho!
Bonjour, je m'appelle Maxime Aubert, je suis d'Aurillac et je viens d'ouvrir une cave à Marcolès.
Alors là, tu es présent sur le marché de Noël, c'est ta première fois?
C'est ma première fois sur le marché de Noël d'Aurillac, oui.
Qu'est-ce que tu nous proposes?
Alors j'ai une sélection de vins de producteurs, une majorité 80% en biodynamie, tout le temps des petites sélections. Je me déplace dans les domaines et je rencontre les vignerons, savoir comment ils travaillent et leur état d'esprit.
Donc au-delà d'un produit, tu vends aussi quelque chose que tu as apprécié?
Tout à fait. Je pense que j'ai plus ou moins goûter tous les produits que j'ai achetés et je propose tout le temps des dégustations sur stand afin d'aiguiller les gens sur quelque chose qu'ils aiment et pas faire de la vente forcée sur quelque chose qu'ils n'ont pas aimé.
Qu'est-ce que tu proposerais là pour Noël par exemple?
Pour Noël, j'ai une sélection de champagne de vigneron et j'ai des cuvées spéciales que j'ai sorties uniquement pour Noël, que j'ai encore jamais sorties sur le marché, qui sont un petit peu situées sur toutes les régions de France mais que sur de la belle qualité.
Ho, ho, ho.
Bonjour, eh bien Fanny Nicolézo, je suis créatrice d'objets en bois personnalisé pour la marque Personnise-moi.
Vous êtes présente sur le marché de Noël d'Aurillac, c'est votre première fois?
C'est ma deuxième année sur le marché.
Bonne expérience?
Très bonne expérience, vraiment ravie de la première année avec beaucoup de monde, ravie d'avoir enfin quelque chose d'unique sur le marché de Noël, donc c'est pour ça que je reviens aussi pour proposer à nouveau des choses uniques et personnalisées.
Alors vous êtes d'où?
D'Aurillac.
D'Aurillac, donc on peut retrouver quand même ce que vous vendez toute l'année?
Alors, Alors, j'ai pas de boutique, mais en effet, j'ai un site internet où je propose vraiment du sur-mesure avec tous mes produits. Et ensuite, j'ai un atelier où j'accueille les clients s'ils veulent venir me rendre visite ou venir chercher leurs commandes. C'est avec grand plaisir que je les accueille dans mon atelier au village entreprise.
Expliquez-nous ce que vous proposez.
Alors, j'ai plusieurs gammes de produits. Donc, ça va de la décoration de chambres d'enfants, des cadeaux en tout genre pour toute la famille. Je fais également des bijoux. Je fais de la décoration de Noël et d'art de table aussi. Et j'ai aussi une autre spécialité que je ne présente pas sur le marché, mais je suis spécialisée dans la décoration de mariage. J'ai aussi une autre gamme que je suis en train de développer pour les professionnels, où là je fais tout ce qui est goodies, les logos. Là par exemple, je fais des porte-cartes de visite pour les professionnels. Ça peut être des porte-clés à offrir à leurs clients ou avec leur carte de visite dessus.
Ho ho ho!
Je suis Ghislaine Hugon. Mon nom d'artiste c'est Jade. À Marcolès, on me connaît sous le nom de Jade. Et je peins. Et je fais plein d'objets avec mon compagnon qui, lui, s'occupe du bois. Donc, il me fabrique des petites boîtes et moi, je les peins. Je fais des petites choses dessus, des boîtes à dents pour les enfants, pour récupérer les dents de lait, des petites boîtes pour les médicaments, pour avoir une petite boîte un peu plus sympa que leur machin, là.
Que les trucs en plastique.
C'est ça. Et cette année, il m'a fabriqué même des porte-savon. En noyer, et c'est super joli, vous voyez.
Cantalienne ?
Cantalienne d'origine, mais je suis née à Paris.
Depuis quand sur le marché d'Aurillac ?
Voilà, ça fait une dizaine d'années maintenant.
Finalement, une ancienne.
Oui, complètement, oui, oui, oui. Ils aiment ce que je fais, alors ils m'appellent.
Et vous, vous aimez venir ici ?
Bien sûr.
Ho, ho, ho !
Alors, moi je me présente, c'est Monsieur Chassant-Pierre, président de l'association Sud-Lointain depuis 15 ans, ouais.
Et là, présent sur le marché de Noël depuis ?
Je ne me rappelle plus. Depuis longtemps aussi.
Depuis longtemps donc. Alors le stand, qu'est-ce que c'est exactement ?
Mais là, cette année, comme on dit, on est revenu aux fondamentaux. Un peu d'artisanat du Vietnam et vin chaud, chocolat chaud, thé, café, infusion, verveine. Prix défiant toute concurrence. Et au niveau qualité, on a déjà testé le vin rouge, il est pas mal. On peut dire les tarifs, non ?
Oui.
Alors 2 euros le verre de 20 centilitres et tout ce qui est café, thé, infusion, c'est 1 euro le verre. C'est histoire de passer un bon moment avec les gens, de discuter comme on fait là.
De rencontrer, quoi.
Voilà, tout à fait.
C'est quoi le but de l'association ?
Donc c'est une petite association humanitaire, un petit groupe d'amis, un peu comme RPA, un petit groupe d'amis en France et un petit groupe d'amis au Vietnam. Et l'association, elle est pérenne comme ça depuis 15 ans, quoi. Donc il n'y a pas de site internet, c'est un petit truc un peu informel, mais ça fonctionne très bien comme ça.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on our troubles will be out of sight. Yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Gather near to us once more. Through the years we all.
Ces avant-dernières chroniques terriennes de l'année touchent à leur fin. Je remercie tout particulièrement et très chaleureusement tous ceux qui y ont participé.
Hang a shining star.
Je vous rappelle que si un sujet vous passionne, que vous souhaitez vous exprimer à la radio, rien de plus simple, vous me contactez par téléphone ou par SMS au 07 69 25 96 69. Retrouvez votre émission Chronique Terrienne sur Radio Pays d'Aurillac tous les lundis de 21h à 22h, le samedi en rediffusion de 20h à 21h, sur le site internet en replay de Radio Pays d'Aurillac et bien sûr sur la chaîne YouTube Chronique Terrienne.
Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux ? Mais dis, qu'est-ce que ça peut vous faire ?
Au revoir à toutes, au revoir à tous et très joyeux Noël.